Alors bonjour et bienvenue à une autre émission de La jeunesse n'a pas d'âge sur Choc FM. Alors aujourd'hui, on parle de transition en milieu de carrière avec Catherine. Catherine, elle a décidé en 2003, elle est d'origine française, et elle a fait le choix d'immigrer au Canada avec ses enfants et son mari canadien. On va discuter de l'évolution de son projet, et puis aussi des choix, puis peut-être aussi des surprises qui ont marqué son parcours. Bien que sa décision d'émigrer s'est prise autour de la quarantaine, Catherine a maintenant une cinquantaine d'années et pose aussi un regard intéressant sur cette décision familiale et peut-être sur ce qui l'attend aussi dans cette nouvelle décennie qui s'en vient. Alors, sans plus tarder, je vous présente Catherine. Bonjour.
Bonjour.
Ben, Catherine, je vais vous demander de parler juste un petit peu plus près
Parfait.
Du micro. Catherine, comment est-ce que vous décririez votre parcours professionnel avant votre départ pour le Canada?
Mais il était déjà bien complet puisque j'avais 19 ans et 11 mois de travail, donc presque une vingtaine d'années. J'avais un parcours professionnel assez classique. J'ai toujours essayé d'évoluer dans ma carrière. Donc, j'ai commencé par avoir une profession un petit peu inhabituelle. J'ai été régisseur d'un monument historique pendant une douzaine d'années. Pendant que je m'occupais de ce monument historique, j'ai continué mes études pour devenir ce qu'on appelle là-bas attaché territorial, qui est un grade de la fonction publique. Et je suis devenue attaché territorial dans le domaine de la culture.
D'accord.
Donc, j'ai travaillé dans une bibliothèque. J'ai aussi travaillé au sein d'une grande ville de province. Et j'ai terminé ma carrière au moment du départ. J'étais chef de service formation dans une direction de ressources humaines au sein d'une municipalité régionale.
D'accord. Laquelle, si c'est pas indiscret?
La municipalité régionale du Val-de-Loire.
D'accord. Alors, une belle région,
quand
même.
Une belle région,
oui.
Très riche en histoire.
Exactement, exactement. Donc, quand on vit, puis là, c'est peut-être le rêve de beaucoup de personnes qui nous écoutent, bon, elle vit entourée de châteaux de la Loire.
Tout à fait.
Et elle décide qu'elle veut s'installer au Canada. Donc, qu'est-ce qui a motivé cette décision?
La décision a été familiale.
Oui.
J'avais rencontré à la fin des années 70 la personne qui est devenue mon mari ici au Canada lorsque j'étais... aide familiale. J'étais venue au Canada pour apprendre l'anglais une année.
Ah bon?
J'ai rencontré mon mari. Moi, je suis retournée en France et il m'a rejointe en France 3 ans après mon départ. Mon premier départ du Canada. Parce que j'étais restée qu'une année. Puis quand mon année était terminée, j'étais rentrée en France pour poursuivre mes études universitaires. Donc, mon mari a vécu en France avec moi de 83. À partir de 83, les enfants sont nés. On les a élevés en France et puis, à la fin des années 90, on voyait bien qu'on était titillé par l'idée de s'en venir, pour moi, s'en venir vraiment au Canada, pour mon mari faire un retour.
D'accord, d'accord.
Mais après 20 ans, c'est sûr que la décision était difficile à prendre.
Oui.
Puisque 20 ans, pour lui, c'était, il avait une vie bien ancrée, les enfants étaient aussi bien ancrés. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait un morceau de notre histoire qui manquait, puisqu'il y a quand même 50% de la culture du couple qui était canadienne.
D'accord. Vos enfants, à ce moment-là, ils avaient quel âge à peu près?
Quand on est arrivé ici, 10 et 13.
10 et 13. Donc, est-ce qu'ils étaient partie prenante de l'aventure? Est-ce qu'ils avaient le
goût de... Ils étaient tout à fait partie prenante.
Oui.
Ce qui est très drôle, c'est que l'aînée était plus partie prenante que la cadette. Mais au final, c'est l'aînée qui a eu plus de difficultés à s'acclimater que la cadette.
Ah bon? C'est vrai?
Oui. Je pense qu'on en a déduit que 13 ans, c'est... un âge un peu tardif.
Oui, un peu sensible.
Un peu sensible, c'est l'adolescence, puis il nous l'a reproché un peu, on l'avait privé d'une adolescence joyeuse et sans souci.
Ah.
Mais on n'est pas les seuls à avoir
eu
ce type de déménagement, donc...
Voilà.
Mais un conseil peut-être, c'est si on a le choix de faire le départ avec des enfants un peu moins âgés.
D'accord, d'accord. Alors qu'ils sont plus petits. Mm-hmm. Alors déjà à l'adolescence, il y avait disons une couche de plus là, d'acclimatation peut-être qui devait se faire. Dans les mois qui ont précédé votre départ, comment est-ce que vous imaginiez votre arrivée et est-ce que ça s'est passé comme vous le pensiez?
Bon, ça s'est passé Assez difficilement. Je pense que déménager 20 ans d'une vie, ça s'improvise pas. Puis j'ai quand même été un peu tirée
oui.
par mon époux, puisque la décision finale quand même lui revenait.
Oui.
Si j'avais été seule, je serais restée en France.
Oui.
Donc, il fallait préparer beaucoup de choses. Il fallait se séparer de beaucoup d'objets matériels.
Oui.
Parce que en arrivant ici, il était hors de question qu'on loue un conteneur pour nos possessions. Donc, on a décidé de se débarrasser de tout.
Oui.
Et puis de commencer vraiment la nouvelle vie. Donc, ça a été à la fois stressant, fatigant, mais on se laissait porter. Puis, oui. comme le temps passe, de toute façon, quoi qu'on fasse, ce qui devait arriver est arrivé. On s'est retrouvé sur le quai de la gare avec.
Oui.
8 valises, 4 sacs à dos.
Oui, oui, oui.
Pour d'abord prendre le TGV.
Oui.
Qui nous emmenait à l'aéroport et ensuite nous envoler pour Toronto.
Pour Toronto. Et une fois arrivé, j'imagine qu'il y avait la famille peut-être de votre mari qui
oui.
était quand même impliquée là, dans votre accueil.
Oui, puisque une des premières raisons de notre arrivée en Ontario, c'était pour être au plus près des grands-parents paternels.
D'accord.
De mon côté, il n'y avait pas de grand-père. Et on avait pensé que c'était très important que les enfants connaissent et puissent vivre un peu avec leurs grands-parents qui devenaient de plus en plus âgés.
Oui.
Donc, on a tellement voulu être près d'eux que c'est eux qui nous ont accueillis dans leur appartement de une chambre et un den. Et on a vécu avec eux pendant un mois le temps qu'on trouve une maison. C'était pas facile.
Non, j'imagine.
Donc, on a été au plus près d'eux.
Voilà.
Dans les tout débuts, puis c'est ce qui explique notre installation à Niagara Falls.
D'accord. Ben, avec cette vision d'une famille au complet, avec les 8 valises et les sacs à dos, je vais vous demander de présenter un petit peu une chanson que vous avez choisie pour cette émission, qui est une chanson de Fréhel.
Oui, Fréhel, c'est une artiste qui a vécu dans les années 30. Cette chanson date de 1936. Ça s'appelle « Où est-il donc ?» Et ça raconte le départ d'immigrants qui quittent leur ville, la ville de Paris, pour New York. Mais on peut tout à fait changer quand on va parler de New York et dire à Toronto.
D'accord. Alors, sans plus tarder, on écoute ce petit bijou d'anthologie qui est la chanson « Où est-il ?»«
Où est-il donc ?»«
Où est-il donc ?» de Fréhel.
Il y en a qui vous parlent de l'Amérique, ils ont des visions de cinéma. Ils vous disent quel pays magnifique, notre Paris n'est rien auprès de ça. Ces boniments la rendent moins timide, bref on y part un jour de cafard. Encore un de plus qui le ventre vide, à New York cherchera un dollar. Parmi les gueuses et les proscrits, les émigrants au cœur meurtri, il dira regrettant Paris. Où est-il mon moulin de la place blanche, mon tabac et mon bistrot du coin? Tous les jours pour moi c'était dimanche. Où sont-ils les amis, les copains? Où sont-ils tous mes vieux balmusettes, leur java au son de l'accordéon? Où sont-ils tous mes repas sans galette, avec un cornet de frites à deux ronds? Où sont-ils donc? Mais Montmartre semble disparaître, car déjà de saison en saison, des abbesses à la place du tertre ont démoli nos vieilles maisons. Sur les terrains vagues de la butte, de grandes banques naîtront bientôt. Où ferez-vous alors vos culbutes, vous les pauvres gosses à poules beaux? En regrettant le temps jadis, nous chanterons pensant à Salis, Montmartre tondé profondis. Où est-il mon moulin de la place blanche, mon tabac et mon bistrot du coin? Tous les jours pour nous c'était dimanche. Où sont-ils nos amis, nos copains? Où sont-ils tous nos vieux balmusettes, leur java au son de l'accordéon? Où sont-ils tous mes repas sans galette, avec un cornet de frites à deux ronds? sont-ils donc ? Java au son d'accordéon. Où sont-ils tous mes repas en galette quand je bouffais même sans avoir un rond? Où sont-ils donc?
Alors, bonjour, on est de retour avec Catherine. On vient d'écouter cette merveilleuse pièce de Fréhel. Et puis, on avait laissé Catherine avec ses deux enfants, avec leur sac à dos et leur petite valise. Ils sont emménagés chez grand-maman et grand-papa, leur grosse valise, effectivement. Alors, on se demande, avec tout ça, vous êtes bien installés. Comment ça se passe exactement, ces premiers mois d'intégration chez les grands-parents? Quelles émotions vous accompagnent, Catherine, dans ces premiers mois?
On était un peu tassés.
Oui.
Mais on a été accueillis chaleureusement.
Oui.
Le plus compliqué était de trouver un logement.
Oui.
On souhaitait, évidemment, louer dans un premier temps une maison. Mais évidemment, quand on n'a pas de revenus, puisqu'on n'avait pas d'emploi, les propriétaires sont peu enclins à louer leur maison. Donc, il a fallu qu'on mette en avant toutes nos économies en disant on est là pour rester. Donc, voilà 6 mois de loyer pour qu'enfin, au bout d'un mois, on arrive à décrocher une maison à louer.
D'accord.
Ça a été très, très stressant.
Ah, c'était stressant. Oui. Donc, il y avait un élément de stress dans tout ça. J'imagine de la frustration aussi.
Un peu,
oui.
Rien n'est aussi facile comme on l'imaginait, mais c'est aussi parce que on n'était pas assez préparé. On aurait dû faire des démarches avant de partir.
D'accord.
Que nous n'avions pas faites, parce que moi, je pensais que, étant tous Canadiens, sauf moi, je me disais, en tant qu'épouse et mère d'enfants canadiens, on n'aurait pas de problème à trouver tout un tas de choses, mais ça a été plus compliqué qu'on ne pensait.
Plus compliqué. Donc, dans votre cas, il y a eu une certaine période pendant laquelle vous n'avez pas pu travailler.
Exactement, oui. Les enfants ont eu une maman à la maison pendant 14 mois, qui a été une interruption dans ma vie professionnelle. C'était la première fois que je m'arrêtais si longtemps, puisque je n'avais pas de statut légal qui me permettait de travailler au Canada.
D'accord.
Donc, le temps de faire les démarches, j'étais à la maison, je m'occupais des enfants, je soutenais le mari qui cherchait lui-même son emploi. Donc, une vie familiale un petit peu chamboulée.
Oui.
D'autant plus que en France, on s'efforçait de toujours parler anglais à la maison pour que les enfants puissent converser avec leurs grands-parents quand il y avait un appel téléphonique. Et là, on nous demandait de faire le contraire, de parler français pour préserver le français. Ça a été toute une gymnastique inverse.
Ah, d'accord. Donc, mes conversations à la maison étaient différentes.
Tout à fait.
Ouais, c'était un choix que vous avez fait comme parent de privilégier quand la langue seconde. Finalement.
Voilà. Quand on était en France, il fallait absolument qu'on puisse. Alors, d'abord, mon mari et moi, on a toujours communiqué en anglais. Donc, on avait conservé cela dans nos échanges entre nous deux. Quand les enfants sont arrivés, on a continué pour qu'ils puissent avoir un contact avec leur famille paternelle.
D'accord.
Qui ne parle pas du tout français.
D'accord.
Mais là, en arrivant du côté anglophone, on nous avait bien dit, attendez, si vous voulez garder votre français, il faut que vous recommenciez à parler français entre vous. Donc, ça, c'est toute une gymnastique.
Oui, j'imagine. Pour les enfants, donc, et ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que vous êtes, installée à Niagara Falls.
Oui.
Parce que c'est là que sont les
grands-parents. Oui.
Donc, les enfants vont à l'école en français.
Oui, dans la péninsule.
À Niagara Falls. Mm-hmm. Comment ça s'est passé pour eux, cette intégration au milieu scolaire canadien?
Ça a été intéressant. L'aîné nous a fait une belle surprise. À 13 ans, il parlait un petit peu anglais, juste assez pour tenir une conversation avec ses grands-parents. On l'inscrit dans une école secondaire francophone et il commence la rentrée en septembre. Mi-octobre, on a un appel de la directrice qui nous dit « j'ai besoin de vous voir ». Nous allons la voir et elle nous annonce, il y a un problème avec votre fils. Il veut pas parler français. Il ne parle qu'anglais. En 6 semaines, l'assimilation de l'anglais avait été telle qu'il refusait de s'exprimer en français. D'abord parce qu'il avait été étiqueté le Frenchie. Et il ne voulait plus parler qu'anglais.
D'accord. Alors ça, c'était sa façon d'affirmer
son... En 6 semaines. Son anglais s'est développé, mais à une vitesse fulgurante.
Fulgurante.
Hein, autant capable de le parler que de l'écrire.
Oui, oui. Puis votre fille cadette, elle avait 10 ans, elle?
Oui, alors elle était encore à l'élémentaire. Plus doucement, le français était peut-être plus présent dans une école élémentaire qu'au secondaire. Oui. Et elle a eu une acculturation, je peux dire, un peu plus douce.
D'accord, d'accord. Vous êtes dans le Niagara, vous êtes partie de la région de la Loire. Est-ce que ça, il y a eu un choc au niveau du milieu comme
non,
tel
Non, pas,
vous
pas étiez? Vraiment. Non. Autant la vallée de la Loire que la péninsule du Niagara, ce sont deux régions touristiques mondialement connues.
Et oui, c'est vrai.
J'ai pas les statistiques, mais enfin en termes de visites, ça doit être assez équivalent. Donc on retrouvait un petit peu cette atmosphère au Niagara. D'autant plus que c'est une très très belle région.
Oui.
On n'a pas fini de connaître. C'était assez similaire, tout à fait.
Et vous êtes resté là 5 ans.
5 ans.
Mm-hmm. Oui, oui. Et je crois que vous avez, bon, effectivement, trouvé du travail. Et puis, vous avez réussi à trouver du travail dans un organisme francophone.
Oui, tout de suite, j'ai voulu mettre ma francophonie au service des francophones de l'Ontario. Je me disais que c'était le meilleur moyen de m'impliquer, et j'ai trouvé très rapidement, enfin, dès que j'ai eu mon permis de travail, du travail dans un organisme francophone.
D'accord, d'accord. Et ça, c'est quelque chose qui vous accompagne depuis quand même 2003, là, depuis...
Oui, je me rends compte que, bon, j'étais très sceptique sur l'avenir de la francophonie ontarienne à mon arrivée, je dois dire. Pendant 2-3 ans, j'étais vraiment même très pessimiste. Puis, je me rends compte que quand même, il y a sans doute de l'avenir. Donc, je persiste à continuer à travailler en français.
Parfait. Ben, on est content. C'est pour si, pour les francophones qui arrivent d'autres francophones convaincus. C'est formidable. Alors, c'est peut-être un bon lien à faire avec la prochaine chanson, en fait, que vous avez choisie. Alors, avec un thème assez similaire à la première, mais beaucoup plus récent. Dans ce cas-ci, je pense que c'est une chanson qui date de 2016.
2016, oui.
Oui.
Et puis, elle est très connue en France. Je sais pas si elle est connue encore ici, mais vous pourrez la connaître si vous allez voir l'ensemble vocal chanter Les Voix du Cœur, puisque c'est une chanson inscrite au répertoire pour cette année. La chanson s'appelle « Il est où le bonheur, il est où ?» et c'est de Christophe Maé.
Alors, on découvre ensemble Christophe Maé. À tout à l'heure.
Il est où le bonheur, il est où ? Il est où ? Il est où le bonheur, il est où ? Il est où ? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant, on fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs sans potes. Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte. Comme un con dans son bain, essayant de le noyer, mais il flotte. Ce putain de chagrin, alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là, il est là le bonheur, il est là, il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque, j'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait, mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes, on fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles, c'était mieux avant. Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est où le bonheur, il est où? bougie le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui, on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit, non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur, ouais. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Il est là, et il est là. Le bonheur, il est là, il est là.
J'ai le goût, Catherine, de vous demander, votre conjoint canadien. Mm-hmm. Donc lui, il a vécu presque 20 ans en France, et là, il revient au Canada. On pourrait l'avoir ici avec nous, c'est sûr, mais si vous pourriez nous dire un petit peu, est-ce que lui a trouvé que ça avait changé? Est-ce que son Canada avait changé?
Oui, il a aussi trouvé que le Canada anglophone avait changé, l'Ontario anglophone avait changé. Sa réinsertion professionnelle n'a pas été aussi facile qu'on le pensait.
D'accord.
Il n'a pas trouvé tout de suite l'emploi qu'il rêvait d'avoir. Ça a été beaucoup plus long. Donc, effectivement, les difficultés étaient là, même si on avait de la famille, on avait des amis, on avait été très bien accueillis. Il n'en reste pas moins que de refaire une vie professionnelle et sociale après 40 ans dans un nouveau pays, ça n'est pas facile.
Ça n'est pas facile, non.
Il faut tout reprendre à zéro.
Oui. Est-ce que vous avez des trucs de ce côté-là? Est-ce qu'il y a des choses qui ont particulièrement bien fonctionné pour vous de ce côté-là?
À un moment, il faut couper le cordon. Parce qu'on essaye de garder des contacts avec la famille toujours un peu.
Oui.
Bien sûr. Avec les amis, c'est très difficile. Avec les amis qui sont restés en France.
Oui.
Parce qu'on essaye les premières années, donc, et la technique est là, maintenant il y a Skype et tout ça, mais au bout d'un moment, on a du mal à garder sauf avec les deux, trois très proches.
Oui.
Mais avec les autres, avec le deuxième cercle d'amis, c'est très difficile.
C'est plus difficile.
On n'a plus du tout on n'a plus les mêmes repères, on n'a plus les mêmes, on n'écoute plus les mêmes actualités, on n'a plus les mêmes sujets de conversation. Puis alors après, il faut toujours re-raconter ce que nous on fait, écouter ce que les autres font. Ça devient très long.
Oui.
À continuer le contact.
Oui. D'accord. Alors il y a presque une décision qui se prend que, ok, ben là il faut se créer un nouveau cercle.
Une décision sans prendre la décision, ouais. Ça, on en vient à une communication par an au moment du nouvel an.
Ah bon,
pour les vœux.
Oui.
On coupe pas les ponts complètement, mais des communications plus régulières, c'est très difficile.
C'est très difficile.
Parce que dans le même temps, on essaye de se monter un réseau d'amis ici.
Oui.
Donc, on peut pas courir deux chats à la fois.
C'est
Puis
vrai.
À un moment, on se concentre sur un des deux.
Qu'est-ce qui a été la porte d'entrée vers un nouveau cercle d'amis pour vous? Est-ce que c'était l'école avec comme parents? Est-ce que c'était
Ça a été les activités sportives des enfants.
C'est vrai.
On a fait de très belles rencontres. Ça a été l'activité professionnelle. Et puis les hobbies qu'on faisait. Moi, j'ai cherché tout de suite à trouver à m'occuper en français. Donc, j'ai trouvé un ensemble vocal quand je suis arrivée à Toronto. Où là, j'ai créé de très belles amitiés.
Donc, les voix du cœur, pas les nommer. Mmh. Donc, cet ensemble vocal qui est quand même une espèce de pilier de la francophonie, quelque part. Mmh. Il y a plusieurs organismes francophones qui durent, mais les voix du cœur, c'est quand même, ça a plus de 20 ans.
Oui,
plus de
20 ans.
Il faut quand même le souligner. Mmh. C'est un organisme qui continue et puis qui s'améliore d'année en année.
Tout à fait.
Oui, oui. Vous avez été impliquée donc dans les Voix du cœur comme choriste et puis
membre du conseil d'administration également.
Membre du conseil d'administration également. Et vous continuez d'avoir à cœur donc l'évolution de la francophonie.
Tout à fait. D'autant plus que mon pessimisme a laissé place à un optimisme bien plus. Bien plus soutenu.
Oui.
C'est vrai que ça bouge pas mal dans la francophonie ontarienne.
Oui.
Donc, on a des pistes là qui nous donnent à penser que ça va pouvoir bouger.
D'accord.
Donc, ne serait-ce que l'éducation postsecondaire en français.
Oui. Est-ce que c'est il y a des domaines donc qui vous tiennent particulièrement à cœur?
L'éducation, ça a toujours été un domaine très important pour moi, où que ce soit, en France ou ici.
Oui.
Tout part de l'éducation.
Oui, bien sûr.
Quand on veut changer des choses, on commence par là. Donc, oui, l'éducation en français, c'est primordial.
Oui, oui. Dans votre travail, vous avez l'occasion de rencontrer quand même des gens qui, justement, cherchent du boulot, arrivent et veulent, bien sûr, s'intégrer comme vous vouliez le faire il y a 16 ans, 13 ans. Qu'est-ce que vous remarquez par rapport à
là, moi, j'ai un très, très grand respect, voire même une admiration pour les gens qui viennent poussés par des guerres, même des fois des personnes qui ont subi des actes de torture, etc., puis qui viennent là, qui débarquent au Canada.
Oui.
Nous, ça a été un choix de vie.
Oui.
On en a quand même bavé la première année.
Oui.
Donc, pensez à ces personnes qui arrivent là, débarquant, qui ne connaissent absolument personne. C'est vraiment... il faut avoir ça en tête quand on rencontre des nouveaux arrivants.
Oui.
Ils l'ont pas facile, mais ils l'ont encore moins facile que nous l'avons eu.
Oui, oui.
Donc, c'est vraiment... C'est tout un changement pour ces personnes-là.
Oui, oui.
Parce qu'ils arrivent sur un nouveau continent, des nouveaux modes de vie... pas de personne à qui vraiment s'ouvrir, communiquer. Faut vraiment les soutenir beaucoup.
Oui, oui, oui. Oui. C'est important de penser aussi à ces termes-là. Donc, quand on rencontre tout nouveaux arrivants, quel conseil est-ce que vous donneriez à des personnes qui, comme vous, ont le goût de... parce qu'on est quand même écouté un peu partout, à l'international, Choc FM. Donc, des gens qui ont le goût, comme ça, de partir, quitter travail, famille, amis, et embarquer leurs enfants dans l'expérience et tout ça. Est-ce qu'il y a des conseils que vous voulez
donner? Alors, se préparer peut-être un peu mieux que nous.
Oui.
C'est-à-dire faire les démarches administratives nécessaires avant de débarquer.
Avant de débarquer. Au niveau de l'emploi, surtout.
Ouais. Au niveau de l'emploi, surtout. Ouais. Ça, avoir un poste avant d'arriver, évidemment, ça soulage l'esprit.
Ouais.
Il faut rencontrer, dès qu'on est arrivé, il faut rencontrer des personnes qui sont passées par le même processus.
D'accord.
Pas essayer de rencontrer que des Ontariens. Je parle de l'Ontario, je ne connais pas les autres. Même les Ontariens qui sont là depuis très longtemps, il faut vraiment rencontrer des personnes qui viennent assez récemment de passer par le même processus pour écouter ce qu'ils ont à dire puis apprendre.
Apprendre de
leur expérience, voire de leurs erreurs.
Oui.
Venir sans les enfants 2 à 3 mois avant le grand départ.
Ah oui, d'accord.
C'est ce que nous avions fait aussi. On était venus 2 semaines en avril, on est arrivé en juin, pour repérer au moins l'espace.
D'accord.
Parce que des enfants de 10, 13 ans ou même plus jeunes, que vous débarquez comme ça, il faut qu'ils sentent que vous soyez sûrs de vous.
Oui.
Donc, faudrait pas que la famille, là, elle erre dans les rues, dans les quartiers, dans la région, en pensant que, wow, on sait pas où on va.
D'accord.
Donc, essayez
Ils ont besoin de sentir que les parents sont au-dessus de la situation.
Assurer un petit peu une assurance par les enfants.
Oui.
Et puis, faire toutes les démarches, oui, ça, j'ai dit, pour être autorisé à travailler au Canada. Alors, pour l'Ontario et la minorité francophone, se renseigner sur les écoles francophones.
Oui.
Et y inscrire leurs enfants.
Oui.
On n'inscrit pas des enfants francophones dans une école anglophone, ça n'est pas la peine. Parce que, comme vous le savez, l'anglais s'attrape et le français s'apprend.
D'accord.
Donc, où que vous mettiez vos enfants, puis l'exemple que je donnais de mon fils tout à l'heure, vos enfants deviendront bilingues en un rien de temps. Par contre, conserver son français, faut travailler
dessus. Faut travailler. Donc,
inscrivez vos enfants en école francophone.
OK. Le message est passé de ce côté-là. On avait, avant de conclure, on avait un troisième choix de chansons. Et puis celui-là, moi, je l'affectionne tout particulièrement parce que il y a très, très longtemps, comme étudiante, je faisais un peu de radio étudiante, justement. Et puis, à ce moment-là, j'ai découvert Renaud. Puis il y a une chanson de Renaud en particulier, Catherine, qui vous tient à cœur. C'est laquelle?
Mistral gagnant.
Oui.
J'ai appris il y a quelque temps que c'était une des chansons préférées des Français.
Oui, hein.
Ouais. C'est un texte absolument magnifique,
ouais.
Puis qui nous renvoie sur l'avenir qui est porté par les enfants.
Voilà. Et tout en étant un peu nostalgique, mais
bien
voilà,
sûr.
Porté sur l'avenir.
Ouais.
Alors voici la très très belle chanson de Renaud, Mistral gagnant.
M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot et bon mec fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères. Et les vrais roudoudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous. Te dire que les méchants c'est pas nous. Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie, l'aimer même si est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants et les Mistral gagnants.
Moi, cette chanson-là, elle me donne faim, Catherine. Il me semble que je mangerais des bonbons.
C'est sûr. Surtout quand on les a connus. Parce que je ne sais pas si les personnes ici savent vraiment ce que c'était que le Mistral gagnant ou le roux-doudou.
Probablement pas.
Le roux-doudou, c'est une coquille, comme une coquille Saint-Jacques. Dans le fond, il y avait du sucre. Et on lichait ça.
Ah oui.
On léchait la chose. Alors, ça abîmait toutes les lèvres et toutes les dents. Et il le dit très bien dans la chanson. Moi, je me souviens avoir acheté des roux-doudous. Les Mistral gagnants, c'était un peu avant mon époque. Ça. Alors, les Mistral gagnants, c'est on développait le bonbon. Puis, 1 sur 10 milliers était gagnant pour en avoir un autre.
Ah bon, d'accord.
C'était ça, le Mistral gagnant.
Ça devait être assez festif quand ça arrivait. Parfait. Donc, j'ai le goût de vous demander, Catherine, pour conclure, si vous aviez à identifier les bonnes décisions que vous avez prises, là, les bons coups que vous avez faits dans cette transition-là, qu'est-ce que ça serait?
Alors, demeurez très ouverte.
Oui.
Très ouverte à tout.
Oui.
Demeurez ouverte aux rencontres, demeurez ouverte aux nouvelles expériences, pas hésiter à aller vers les autres, c'est parfois difficile. Essayer de se faire connaître, c'est on amène tout un vécu avec soi.
Oui.
Dont certaines personnes n'ont absolument aucune idée, parce que l'Ontario et la vallée de la Loire, c'est quand même pas la même chose. D'autant plus que moi, 20 ans avant, j'ai habité Paris aussi. Donc Paris et puis Toronto, ce n'est pas du tout non plus la même chose.
Non.
Mais il faut rester à l'écoute et puis toujours écouter les avis de tout le monde.
Oui.
Ne pas s'imposer comme la Française qui arrive avec ses grosses bottes et son français soi-disant parfait. J'ai des anecdotes là absolument hilarantes quand j'ai commencé à travailler à Welland. Le français de Welland, c'est sûr que c'est absolument pas le même français. Ça veut pas dire que moi j'avais un meilleur français, mais...
Il était différent.
Mon premier travail, c'était secrétaire réceptionniste dans un centre de santé. Et je me souviendrai toujours, mon premier patient arrive, j'étais à la réception, et il me dit, alors je ne fais pas l'accent, je ne sais pas le faire, j'ai un appointement avec la nurse pour mon flu-shot. Et là, évidemment, la première fois qu'il a dit ça avec son accent, j'ai évidemment rien compris. Ce monsieur, pour lui, il s'exprimait en français.
Absolument, oui.
Pour moi, c'était pas du français du tout.
Oui.
Mais une fois qu'on sait pourquoi un monsieur de cet âge, certain, a perdu son français, on est très ouvert. Puis on fait avec lui les efforts nécessaires.
Pour se comprendre.
Pour se comprendre.
Oui, oui.
Et j'ai quand même réussi, j'ai essayé de tutoyer ce monsieur, parce que bien évidemment, moi, je lui disais « vous ». Il m'a dit « mais pourquoi tu me dis « vous » ?» Parce que lui, le vouvoiement, il connaissait pas du tout.
Oui, oui.
Donc il y avait ces petites choses-là très, très comiques, dont on rit maintenant, mais...
Il fallait,
fallait faire
l'oreille,
ouais,
c'est
tout
ça.
À fait.
Oui, oui. Un petit regard peut-être vers l'avenir pour vous, Catherine. Vous avez vécu donc cette belle et grosse transition. Mm-hmm. Vous l'avez vécu individuellement, c'est sûr, mais aussi en famille, mm-hmm. quelque part. Est-ce qu'il y a des transitions qui s'annoncent pour vous maintenant?
Oui, comment bien vous envisagez l'avenir? La transition, ben, touche la famille immédiate. Est-ce que les enfants vont s'installer ici ou retourner en France? C'est la grosse question.
Oui.
Bien évidemment, pour eux, ils auront vécu maintenant autant d'années ici que là-bas, donc ils sont plus à même de rester ici, semble-t-il, mais enfin, tout reste ouvert. Et puis, bah, pour nous, ça va aussi dépendre des enfants.
D'accord.
La situation idéale, ce serait 6 mois ici, 6 mois là-bas, mais c'est une situation qui demande un certain niveau de revenus. Donc, pour l'instant, on est un petit peu dans le... On attend que les enfants se placent.
D'accord. Et pour l'instant, ils sont à l'université, je pense.
Oui,
ils travaillent.
Toujours à la maison.
Oui. Jeune vingtaine à la maison. Très bien. Alors, vous avez fait quelque chose de bien parce que c'est ça, ils sont à l'aise avec papa et maman,
ouais.
Visiblement. Oui.
Donc, mais c'est sûr, si on parle de transition plus lointaine, il va falloir que j'envisage dans la prochaine décennie le départ à la retraite des activités professionnelles pour faire d'autres activités.
Oui.
Puis là, ben, faudra prendre des décisions.
Bien sûr. Bien sûr. Ben, je vous souhaite, Catherine, d'être aussi inspirée dans cette transition-là que vous l'avez été pour cette première. Et puis, merci d'avoir partagé vos expériences.
C'était merci vraiment, de m'avoir invitée.
Tout à fait utile et agréable.
Merci.
Bonne journée.
Bonne journée.